Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 5 juin 1806, Louis Bonaparte devient roi de Hollande. Louis Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, est un rêveur, un romantique. Sa santé est fragile, son tempérament est pacifiste, son ambition se limite au bonheur privé. Il est le frère docile qui répond gentiment aux attentes d'un aîné autoritaire. Napoléon, devenu premier consul, insiste pour qu'il épouse Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine. Or, les deux jeunes gens ont des sensibilités opposées, voire incompatibles. Cependant, le mariage est célébré en 1802. C'est un véritable fiasco. Il n'empêche, le couple engendre 3 fils, dont Louis-Napoléon, l'unique survivant qui deviendra Napoléon III. En 1804, Napoléon est proclamé empereur. À 26 ans, Louis devient connétable de l'Empire. Le titre est avant tout honorifique et la fonction ennuyeuse. Rien de bien passionnant pour un mari malheureux qui préfère parader avec son régiment de dragons. Au début de l'année 1806, Napoléon installe sa famille sur différents trônes européens. Joseph, l'aîné des Bonaparte, devient roi de Naples et des deux Siciles. Joachim Murat, l'époux de Caroline Bonaparte, est fait grand-duc de Bergue et de Clèves. Jérôme, le plus jeune des frères Bonaparte, devient en 1807 roi de Westphalie. Pour Louis, Napoléon crée un royaume de toutes pièces dans l'ancienne République des Provinces-Unies. Cette initiative politique, désignée par l'expression « système fédératif », vise à constituer des monarchies et principautés dépendantes de la France, dont l'objectif principal est l'anéantissement de la puissance britannique. Pour ce faire, l'empereur compte sur la fidélité et l'obéissance des membres de sa famille. Louis ne tient pas vraiment à la Hollande. Il préfère une principauté italienne où le climat convient mieux à sa santé défaillante. Une fois encore, il obéit aux ordres de son frère. À Paris, le 5 juin 1806, il est proclamé roi de Hollande en présence d'une délégation batave. Il part alors pour La Haye. Une fois installé sur son trône, il veille au bonheur de ses sujets et à la prospérité de son pays. Il veut mériter la confiance et l'amour des Hollandais. Napoléon exige du nouveau roi de Hollande des troupes pour renforcer la grande armée, une participation effective au blocus contre l'Angleterre et une contribution à la modernisation de la flotte française. Insensible aux promesses faites lors du traité de 1806, entre la France et la Hollande, qui prévoyait un accord commercial entre les deux pays alliés, et sourd aux appels à l'aide d'un jeune souverain confronté à un pays en faillite, Napoléon fulmine contre Louis, qui adopte le parti d'une nation de boutiquiers au lieu d'aider la France. Pour réformer la Hollande, Louis a un urgent besoin d'argent. Or, le blocus continental porte un coup mortel à une économie batave fondée sur le commerce. Louis pense l'organisation de son royaume. Il adapte la constitution au nouveau régime. Il souhaite greffer la monarchie sur la République et apprivoiser une nation fondamentalement républicaine et rebelle. Il se dit persuadé qu'une monarchie constitutionnelle peut tout aussi bien protéger les libertés qu'une république. Il œuvre à l'union des esprits et emploie dans le gouvernement tous les patriotes de talent. Orangistes, unitaristes, fédéralistes, modérés et radicaux, tous se retrouvent autour du souverain pour le redressement de la nation hollandaise. En décembre 1801, le prince d'Orange renonce à ses prérogatives et appelle ses partisans à reprendre leur place au sein de la patrie. Aussi, aristocrates et révolutionnaires hollandais achèvent ce que le régime antérieur a seulement esquissé. Car la politique bonapartiste n'est pas fondamentalement contraire aux idéaux des révolutionnaires, du moins en matière de centralisation administrative, fiscale et financière, mais aussi en ce qui concerne la codification civile et pénale, ou encore l'instruction publique et l'égalité des cultes. Le roi se soucie ainsi d'organiser à tous leur Église, d'accorder à tous, excusez-moi, leur Église, et d'émanciper les Juifs. Enfant des Lumières, Louis en partage les idéaux de rationalisation, d'uniformité et de paix sociale et religieuse. Il entend bien conférer aux institutions nouvelles un caractère national, à savoir hollandais. Pas question de franciser son royaume, de là aussi son désir d'en parler la langue et d'en célébrer les grandes figures. Louis stimule l'industrie et l'artisanat, encourage les recherches sur la santé publique et s'inquiète de l'hygiène. Il déplace les abattoirs hors de la haie. Il fait épurer les canaux et rehausser les digues. Il se veut un bon souverain, le roi des malheureux. En 1807, un bateau de poudre explose à Leyde, la ville universitaire du pays. 150 personnes y trouvent la mort. Le roi accourt aussitôt pour consoler les blessés et distribuer des secours. Il crée les premiers fonds nationaux consacrés aux catastrophes. Ses déplacements à travers le pays sont légion. Sa popularité est certaine. Elle conforte sa légitimité. La face sombre du règne tient à la soif de Louis pour l'ostentation. Pour lui, rien n'est trop beau, ni trop cher. Sa représentation est des plus brillantes. Il change constamment de résidence et cherche en vain la demeure idéale dans un pays pauvre en édifices prestigieux. De La Haye, il part pour Utrecht, puis déménage à Amsterdam. Cette instabilité est perceptible jusque dans le gouvernement. Le roi aime changer de ministre et remanier les départements. Plus le temps passe, plus il devient capricieux, mais aussi solitaire. Hortense, son épouse, l'a quitté en 1807, à la mort de son premier fils. Les amis français sont rentrés en France. Ceux qui restent, Louis s'en méfie. Il voit en eux des espions de son frère. Tout à son grand dessein, l'empereur envisage en 1809 l'annexion de la Hollande à la France. Cette idée fait rapidement son chemin. Au printemps 1810, il parvient à subtiliser à son frère la partie méridionale de son royaume, mais c'est encore insuffisant. Lasse des tergiversations et du manque de collaboration de ce dernier, Napoléon envahit la Hollande en juin 1811. Aussitôt, Louis abdique au profit de son fils aîné et s'enfuit vers une destination inconnue. Jusqu'à sa mort en 1846, il ressasse ses souvenirs hollandais. Son exil lui permet de mettre à profit ses expériences et de revenir à ses anciennes amours. En 1802, il publie un roman intitulé « Marie ou les Hollandaises » où il chante sa patrie d'adoption. 8 ans plus tard, il livre ses documents historiques sur le gouvernement de Hollande. C'est sûrement la période la plus heureuse de son existence. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. C'est Véronique Sanson qui nous accompagne en musique avant de retrouver Emmanuel pour la chronique littéraire « Un jour, 3 livres ». Ce sera d'ailleurs 4 aujourd'hui exceptionnellement. Nous partons en voyage du côté de Vancouver, un titre de 1976.
Aller de ville en ville, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, c'est le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres, quatre, je disais, exceptionnellement aujourd'hui. Et c'est Emmanuel qui nous la présente. Nous commençons par Héritage au pluriel de Monica Elfer. C'est paru aux éditions Albin Michel.
Joseph et Maria Mosbrugger vivent avec leurs cinq enfants au fin fond d'une vallée de la montagne autrichienne. Ils sont pauvres, marginaux et bien sûr méprisés des autres villageois. En 1914, la guerre éclate et Joseph est enrôlé et doit partir. Livrés à eux-mêmes, Maria et ses enfants dépendent de la protection du maire, mais quand Maria tombe enceinte, peu après la brève apparition d'un étranger au village, rumeurs et jalousies se déchaînent. Voici retracé un monde rural et âpre, mais aussi retracé les destinées familiales.
Héritage de Monica Elfer, c'est publié aux éditions Albin Michel. Ce que disent les hirondelles de Catherine Boissel dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité.
Voici la suite d'une chronique familiale en Normandie, suite commencée par Les Portes du Bonheur, puis continuée par Chansons de Julien, et donc voici le troisième opus. En Normandie, Henri et Pauline forment un couple uni, mais en ces années 30, la vie n'est pas simple. La crise économique a ruiné leur élevage de chevaux, et Henri est devenu agriculteur. Un changement qu'il accepte avec philosophie grâce à la tendresse de son épouse. Leurs trois enfants grandissent dans une atmosphère heureuse et Fanfan, l'aîné, connaît bientôt les mois du premier amour. Mais un événement inattendu vient ébranler leur quotidien. Invité par un ami, Henri part pour Berlin. Dans son journal, il consigne sa découverte horrifiée de l'Allemagne nazie. La déclaration de guerre confirme ses pires appréhensions et tandis que la famille subit l'occupation, Fanfan, lui, est enrôlé le jour de ses 20 ans. Il est fait prisonnier à Dunkerque, il arrivera à s'évader, deviendra résistant et il va tenter ainsi de traverser cette période douloureuse en restant fidèle à ses valeurs et aux valeurs de ses parents.
Ce que disent les hirondelles, c'est signé Catherine Boissel, c'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Le tourbillon des illusions de Marie-France Desmarais, toujours dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité.
Rose est étudiante infirmière à Winnipeg et en 1939, elle décide de participer à l'effort de guerre en s'engageant au sein d'une organisation paramilitaire à Montréal, puis comme infirmière à Londres. Sa mère Louise est en effet une Française ayant émigré de Vendée au Canada dans les années 20. En septembre 40, la jeune femme qui veut participer à l'effort de guerre défie la colère maternelle et s'engage ainsi comme infirmière.
Le tourbillon des illusions de Marie-France Desmarais, c'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Nous terminons cette chronique, Emmanuel, par Le bois de discorde de Didier Cornaille, toujours dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité.
Dans les années 60, aux eaux et forêts, une amitié est née dans le Morvan. Celle de Charles, un vieux paysan un peu original qui n'aime que les bois et ses chevaux, et Ahmed, ancien harkis. Bien des années plus tard, Ahmed, vivant dans une banlieue parisienne, retourne dans les forêts morvandelles avec Farid, son petit-fils. La découverte du Morvan est une révélation pour le jeune homme des cités, doux rêveur qui s'épanouit au contact de la nature. Charles, le vieux Charles, le prend en affection et l'emmène avec ses chevaux en forêt. Heureux dans sa nouvelle vie, Farid fait aussi la rencontre de la jolie Aurélie. Mais le village n'apprécie pas forcément la présence de Farid.
Le bois de discorde de Didier Cornaille, c'est publié aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette chronique. Cette émission Historama touche à sa fin. Nous allons nous séparer en chanson avec Véronique Sanson, un titre de 1972, Amoureuse. Et je remercie Lucas qui a réalisé cette émission.
Une nuit, je m'endors avec lui. Je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus
quand je sens que j'entre dans sa vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Son visage, elle me force à parler son langage, mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin.
Thank you.